cette discussion qui promet d'être riche et intéressante. Et ben, je vais commencer par me présenter moi et puis présenter évidemment tous nos invités. Nous en avons un qui arrive très très vite. Donc on va l'attendre un peu pour entamer la discussion. Donc moi je suis Estelle Blanquet et ce qui va m'intéresser dans cette discussion qui porte sur le désir de science chez les jeunes et l'intérêt ou le rôle de la science-fiction dans la création ou dans l'entretien de ce désir. Et bien c'est que moi je suis formatrice en sciences. Et donc mon travail c'est de former les enseignants du primaire de façon à ce qu'ils permettent aux enfants d'avoir envie de faire des sciences. Donc forcément la science-fiction m'intéresse à ce niveau-là. Et mes questions vont être un petit peu orientées au niveau de mes invités. Et voilà, j'ai arrivé à vous. Alors maintenant je peux commencer à vous présenter tout le monde. Donc nous avons tout d'abord Pierre Colin-Tibert, qui est scénariste de bande dessinée et multitâche, multifonction, multi-minute, tout ce qu'on veut. Donc il pourra nous raconter énormément de choses à la fois sur ses bandes dessinées, mais aussi sur ce qu'il écrit dans ses romans. Daniel Martin-Eagle, que les plus jeunes parmi vous ont sans doute lu et peut-être continuer à lire pour ceux qui sont fans. Daniel qui écrit énormément pour les ados, on peut dire, hein, et qui nous fera part de ce qu'elle essaie de faire passer dans ses ouvrages. Émile Bravo, qui est auteur de bande dessinée. Je pense que vous avez tous, si vous êtes passés sur la librairie, d'ailleurs tous leurs ouvrages sont évidemment à disposition, mais Jules est assez connu chez les petits et peut-être chez les grands. Et puis Jeanne Adebat, auteur aussi multifonction, qui a écrit pour les petits et pour les grands.
Passe.
Alors, pour commencer, j'ai envie de poser une question très indiscrète. Alors, ils ne connaissent pas mes questions, hein, donc c'est la surprise pour eux. Donc, ma première question va être la suivante. J'aimerais que chacun d'entre vous me dise un peu quels sont ces désirs de science que vous avez aujourd'hui en tant qu'adulte, des désirs de science, encore un désir de science encore présent, suivi lequel, et sinon pourquoi?
Comment?
Allez.
Bon, ça commence mal parce que moi j'ai un énorme regret par rapport à ça, c'est que j'ai été un cancre comme on en rencontre peu, je pense. En mathématiques, en physique, en chimie, c'était dramatique. Je n'ai jamais rien compris pendant ma scolarité. Ce qui explique peut-être pourquoi je me suis mis à écrire des histoires, d'ailleurs. Il fallait bien faire quelque chose. Et à l'heure actuelle, je me rends compte effectivement qu'il y a des tas de choses passionnantes dans tout ça, y compris dans les maths. Et je suis passé mais à des années-lumière de tout ça. Et je pense sincèrement que c'est vraiment trop tard. Enfin, en plus, je n'ai pas le cerveau qu'il faut pour ça. Donc voilà, c'est effectivement passionnant et je suis passé à côté. Donc c'est un regret. Quelque chose passe.
Merci. Daniel ?
J'étais pas très bonne non plus en sciences à l'école, hein, personnellement. Je me souviens d'une période où j'avais une jeune prof de sciences physique-chimie qui était débutante et qui essayait vainement d'instaurer un petit peu d'autorité et d'écoute de la part de ses élèves qui n'étaient que des jeunes filles littéraires. Et j'étais toujours assise au premier rang avec beaucoup de conviction et d'attention. Et un jour, elle m'a dit, écoutez Daniel, je pense que vous êtes mal orienté. Vous avez l'air de tellement vous intéresser à mes cours que je me demande ce que vous faites vraiment dans une section littéraire. Et je lui ai dit, mais mademoiselle, ce que vous racontez, ça me permet de comprendre les romans de science-fiction que je lis. Et là, j'ai cru qu'elle allait démissionner immédiatement de l'éducation nationale, que... absolument atterré. Elle m'a dit, mais il faut pas lire ça, c'est que des choses fausses, ça va vous empoisonner l'esprit. J'ai dit, oui, mais enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, pour moi, la science, ça a toujours été la partie un peu obscure de ma science-fiction, et c'est ce qui m'intéressait, puisqu'on me donne des renseignements, des bases, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans les livres de science-fiction que j'adorais lire. Alors, donc, voilà, peut-être qu'on en parlera après, mais... c'est peut-être un petit peu ça aussi qui m'a amené à essayer d'intéresser les jeunes à la science-fiction. Pour leur montrer qu'on peut très bien ne pas avoir du tout l'esprit empoisonné en lisant de la science-fiction.
Moi, en fait, j'y suis venu, j'avais raconté ça tout à l'heure, c'est une histoire en fait, qui me revient toujours en tête, c'est très lié à mon enfance. Moi, je disais que j'avais un ami qui avait un grand frère qui faisait des études scientifiques et il s'était mis à me parler comme ça des conséquences de la théorie de la relativité. Et moi, j'avais 10 ans à peu près, j'avais 10 ans, et en fait, je rappelle à tout le monde qu'on sortait en fait du Père Noël, des contes de fées avec l'histoire de princesse, de dragons, de chevaliers, et tout ça était faux. Et là, Sylvia me parle de l'histoire de la relativité du temps, et je trouvais ça incroyablement génial. Enfin, ça me faisait, moi, je disais que j'avais des petits problèmes existentiels quand j'étais gamin, et du coup, ça j'avais l'impression que ça m'apportait des réponses. Et c'est surtout que c'est la première fois qu'on me parlait en fait d'une histoire. J'entendais une histoire complètement incroyable, et pour une fois, c'était vrai. Et en fait, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on nous en parle pas à l'école? Et depuis, en fait, je me suis intéressé à ça. Mais c'est vraiment le côté, c'est dans les sciences, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le côté, en fait, c'est ce qui écrase notre ego, en fait. Vous voyez, en fait, c'est ce côté où on n'est plus rien, on est vraiment une poussière d'étoiles. C'est ça qui m'intéresse, en fait, dans les sciences, plus que, en fait, vraiment, la science, comme le font les scientifiques et tout ça. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est comme ça que je suis venu de manière naturelle de n'importe quel enfant à qui on raconte une histoire merveilleuse, quoi. Voilà. Mais sinon, j'étais nul, hein, aussi, en maths et en physique.
Jeanne. Moi, j'avais un grand-père qui était instituteur, mais instituteur à l'ancienne mode, à savoir un hussard-noir de la République qui s'intéressait passionnément à tous les aspects des sciences. Dans les vacances, c'était aller faire de l'archéologie dans les craies calcaires de Gascogne. On cherchait des fossiles, on cherchait des pointes de flèches. On était à la recherche de la grotte gasconne où il y aurait la leçon Lascaux. Des choses comme ça, mon grand-père était vraiment intéressé par tout ce qui concernait l'enseignement de l'école primaire, les mathématiques à la biologie, à la physique, et il me transmettait ça en même temps que la science-fiction. Pour moi, ça n'a jamais été une matière, enfin, par lui, hein, parce qu'il y avait la partie féminine de la famille qui était essentiellement littéraire de façon école normale supérieure, et elle s'était complètement contre. Mais avec Paty, on s'entendait super bien, et surtout pour mal faire. Et donc, on lisait ensemble René Lé, les deux numéros de fiction qui planquaient à sa femme, enfin bon, voilà. J'ai pas été une excellente élève de sciences, enfin de mathématiques surtout, parce que je ne voyais, il me fallait une finalité directe à ce qu'on m'apprenait dans l'instant, et en mathématiques je la voyais rarement, la finalité directe. Après c'est venu, mais pas toujours d'ailleurs, et puis ce qui surnageait surtout c'était l'émerveillement, le même émerveillement devant les faits produits que je... pas forcément la façon dont on y arrive, hein, l'effet produit, que je trouvais dans la science-fiction. En fait, mon rapport à la science, c'est un rapport de sense of wonder, complètement. Voilà. Daniel, j'ai l'impression que vous avez à la fois une expérience commune et des différences dans le vécu. Jeanne qui dit que... qu'on l'a mis en contact très tôt avec les sciences, toi qui a choisi une carrière littéraire, enfin un cursus littéraire et être une amie, mais pour les littéraires, les sciences, si vous intéressez aux sciences, c'est quasiment anormal, si je comprends bien. Est-ce que, alors ça c'est une question que je renvoie à tout le monde, est-ce que le désir de science que vous aviez à ce moment-là, vous l'avez gardé? Puisqu'on parlait quand vous étiez petit, tu parles de cette sorte de profondeur, Jeanne, est-ce que les gens l'ont encore? Est-ce que ceux qui ont je suis mauvais en science, est-ce qu'il est venu en grandissant? Parce que vous disiez, oui, il y a une frustration parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites, mais est-ce que ce désir-là, il existe ou est-ce qu'il s'est éteint tout simplement?
cas. Non, non, pour moi, il existe. J'ai lu après, plus tard, beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas tout compris, loin de là, mais comme le débat qu'il y avait précédemment, j'ai compris à peu près un tiers de ce qu'il disait. Mais j'essaye. Je fais de gros efforts. Non, et ça, mais il y a des trucs que je trouve absolument passionnants, qui me remplissent de joie. Je sais pas, la sonde sur Mars en ce moment, de temps en temps, on a une image, un truc, je trouve ça absolument génial. En fait, c'est totalement poétique. Mon côté poétique, finalement, c'est ça. Je ne suis pas très poète sur le reste.
Est-ce que quand vous écrivez les uns les autres, vous avez envie d'essayer de faire partager ce sense of wonder, cet émerveillement à vos lecteurs et spécifiquement comment vous y prenez?
Moi, je l'ai beaucoup en ce qui concerne les étoiles, tout simplement. J'étais une petite fille qui regardait le ciel et qui était fascinée par les étoiles. Je demandais, paraît-il, aux membres de ma famille ce qu'il y avait dans les étoiles. Et j'ai toujours gardé cet émerveillement. Encore maintenant, j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a très peu de pollution lumineuse et où le ciel est bien pur. Hein. Je suis en haut des monts du Beaujolais, alors donc on n'a pas trop de pollution. Hein. Et c'est vrai que ça m'arrive quelquefois, même en pleine nuit, quand je me réveille et que je vois par la fenêtre les étoiles qui sont absolument superbes, enfiler le manteau, de redescendre pour aller regarder tout ça, parce que... Il n'y a rien de tel que d'observer avec ses propres yeux. Hein. C'est comme ça qu'on découvre le ciel dans toute sa splendeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et j'essaie, dans la mesure du possible, d'ancrer mes romans avec des situations, dans des véritables constellations. Bon, j'aime bien ça. Ça m'amuse. Ce désir de science-là, cette curiosité qui fait que... quand je parle avec des enfants, souvent je leur dis, tu sais, cette planète, elle tourne autour de telle étoile, et cette étoile, elle existe vraiment, et pour leur donner à leur tour envie de lever le nez, les ciels étoilés, d'aller regarder s'ils pourraient pas repérer par hasard les étoiles dont je leur ai parlé.
Oui, je suis complètement d'accord, mais au-delà de ça, même, c'est, il faut, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement essentielles en fait, dans l'univers qu'on devrait tous savoir. Enfin, je pense qu'ici tout le monde le sait, mais la plupart des gens dans le monde ne savent pas en fait, comment sont fabriqués les atomes. Et ça, enfin, moi je m'émerveille depuis tout petit aussi, comme beaucoup d'enfants, on va dire, s'émerveillent devant le ciel, mais de savoir que nos atomes sont fabriqués là, dans les étoiles, dans ces géantes rouges qui explosent. Moi, je suis en communion avec l'univers quand je sais ça. Et c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde devrait comprendre. C'est-à-dire qu'on est là, sur notre petite planète, là, à se regarder le nombril. Mais quand on regarde l'univers infini, quand on regarde les étoiles qui brillent, il faut se dire que c'est pas des choses qui sont éloignées de nous. Nous avons été fabriqués là. Et ça, quand on prend conscience de ça, tout de suite, on voit les choses avec beaucoup plus de recul. Et notre vie, on la voit bien différemment. Et c'est là où, comme tu disais tout à l'heure, c'est des choses qui écrasent notre ego et qui nous font penser à des vrais problèmes, qui nous sortent en fait de... Bah, c'est nos petits problèmes, là, qu'on s'en sort pas sur cette Terre, parce qu'on prend pas assez de recul. Mais si déjà on comprenait en fait ce rapport qu'on a à l'univers, ce serait énorme, mais on est tellement anthropocentrique qu'on a vraiment du mal à comprendre ça. On pense qu'on est vraiment le centre de l'univers, nous, alors que tout est lié. Quoi. Et ça, c'est quand on explique ça à un enfant, il le comprend. Et c'est ça qui est fantastique. C'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment un devoir en fait, de raconter ces choses-là, il me semble. Et ce n'est pas des théories très compliquées, ce sont des faits. C'est savoir